Mondial Sport. Cédric De Oliveira.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mondial Sport avec le premier trophée continental de la renaissance de Berkane. Les Marocains ont remporté la Coupe de la Confédération ce soir en battant en finale les Égyptiens de Pyramids. On ira au Maroc en tout début d'émission. Le Burkina Faso a l'honneur encore aujourd'hui. Après Alain Traoré, vous entendrez Lassina Traoré, grand espoir du foot burkinabé. À 19 ans, il reviendra sur son retentissant quintuplé hier avec l'Ajax Amsterdam. L'Angleterre au programme de Mondial Sport avec un Edouard Mendy déjà incontournable dans les buts de Chelsea. On en parlera avec notre correspondant Philippe Auclair. Vous expliquera aussi pourquoi Marcus Rashford impressionne outre-Manche et pas forcément pour ses performances sur le terrain. Enfin, on terminera l'émission avec un homme dans l'histoire de son sport. Lewis Hamilton est devenu le pilote de Formule 1 avec le plus de victoires en Grand Prix. Le record de Michael Schumacher a été battu. Voilà, programme éclectique. Mondial Sport, c'est parti. Et on file donc tout de suite au Maroc, puisque la finale de la Coupe de la Confédération s'est terminée il y a quelques minutes et la renaissance de Berkane a remporté la compétition en venant à bout des Égyptiens de Pyramids. Victoire 1-0. Bonsoir Anas Yassine.
Bonsoir Cédric, bonsoir à toutes et à tous.
Alors vous avez suivi cette finale, on peut dire victoire logique pour la renaissance de Berkane.
Oui, tout à fait. La renaissance de Berkane a nettement dominé le premier quart d'heure et l'ouverture du score est intervenue à la 16e minute sur une balle arrêtée. C'est le point fort de l'équipe marocaine, un ballon mal renvoyé par la défense égyptienne. S'en est suivi un cafouillage dans la surface de réparation et le ballon a atterri ou heurté, si on préfère, le mollet du défenseur burkinabé de Berkane, Youssoufou Dayo, et a fini au fond des filets. Le seul but de la rencontre, certes, Pyramide a ensuite eu la possession de la balle, mais sans véritable occasion. Au contraire, ce sont les Marocains qui auraient pu aggraver le score en deuxième période, surtout avec trois face-à-face, et finalement 1-0 pour la renaissance de Berkane, et vous le disiez, son premier sacre continental.
Anas, cette victoire, elle a été acquise malgré une finale marquée par un arbitrage un petit peu compliqué.
Oui, tout à fait. Alioum Nion fait partie des meilleurs arbitres du continent. Mais l'arbitre camerounais n'a pas été heureux. Déjà, on le rappelle, c'était le week-end dernier, à l'occasion de la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions, entre le Zamalek et le Raja, plusieurs contestations. Et ce soir aussi, après le but, le jeu s'est débridé, des interventions un peu justes des deux côtés. Il n'a pas sévi, et à l'arrivée, il y a eu plusieurs actions litigieuses. Il a attendu peut-être la 88e minute pour brandir le carton rouge, c'est le Marocain, le milieu de terrain, Bakr El Hilali, qui a été exclu pour un geste jeu, on va dire, plus que dangereux.
Alors en tout cas, c'est la renaissance de Berkane donc, qui a tiré son épingle du jeu lors de cette finale. Berkane, Anas, finaliste malheureux l'an passé et qui a donc pris sa revanche par rapport donc au scénario de l'an passé.
Oui, oubliez la déception de l'année dernière, on le sait, défaite à l'issue de l'épreuve des tirs au but face au géant égyptien le Zamalek. Il y a eu aussi une petite déception parce que l'équipe marocaine est restée en course pour le titre de champion jusqu'à la toute dernière journée avec le Raja et le WAC. Il y a eu deux déceptions. L'année dernière, une finale perdue. Aujourd'hui, eh bien, la déception est oubliée. Premier titre pour cette équipe qui devient la 6e équipe marocaine à remporter cette Coupe de la CAF avec les deux équipes de Rabat, le FUS et la Esfar, le Raja, le Mas de Fès et le Kaoukab de Marrakech.
Voilà, la consécration donc pour la renaissance de Berkane. Merci beaucoup Anas Yassine d'avoir été dans Mondial Sport et à bientôt dans l'émission La Coupe de la Confédération qui est donc finalement allée à son terme, tant bien que mal, malgré la crise sanitaire. Un Final Four inédit à huis clos et l'une des équipes demi-finalistes qui s'est sentie quelque peu frustrée. Le Oroya de Conakry, un seul club subsaharien à prendre part à ce Final Fort. Bonsoir Tom Rossi.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Alors ça ne s'est pas passé comme prévu hein, pour l'équipe guinéenne qui prenait part à sa première demi-finale de Coupe de la Confédération. Tom, c'était donc la semaine dernière, vous avez pu contacter l'entraîneur du Oroya, Lamine Diaye, très frustré donc. Son équipe, selon lui, n'a pas eu la possibilité de défendre ses chances de manière équitable.
Le coach du Oroya ne disposait ce mardi que de 14 joueurs pour cette demi-finale, Cédric. 12 joueurs de champ et 2 gardiens à cause de nombreux cas de Covid-19 détectés dans les rangs guinéens sur place au Maroc. Résultat, défaite 2-0. Le match n'a pas été reporté, contrairement à la demi-finale retour de Ligue des Champions Zamalek-Raja Casablanca après le contrôle positif au coronavirus de 9 joueurs du club marocain. Alors évidemment, l'entraîneur du Oroya Athletic Club, le Sénégalais Lamine Diaye, se sent lésé. Lui qui déjà se plaignait de cette formule de la Coupe de la Confédération sans match retour.
La façon dont ça s'est passé depuis le début, avec deux poids, deux mesures, parce qu'en Ligue des Champions, on autorise de les jouer en match aller-retour, alors qu'en Coupe CAF, on dit c'est sur aller simple. Ça paraissait un tout petit peu invraisemblable. Et pour ça, oui, on s'en lésait. Parce que quand on voit la suite de la Ligue des Champions où le Raja est dans le même cas que nous étions, et on a reporté leur match alors que nous, on nous l'a refusé. Il y a des choses quand même, j'aimerais avoir des explications.
Lamine Diaye est vraiment déçu de ne pas avoir pu se battre comme il le souhaitait mardi. Déjà que les champions de Guinée n'avaient plus joué depuis 7 mois, contrairement à leurs adversaires du Pyramids FC. Eux ont fini leur championnat une semaine avant cette demi-finale.
C'est plus de la frustration parce que je pense qu'on avait tellement bien préparé ce match. Et depuis le mois de mai, on se prépare. Et puis vraiment, pour en arriver là, c'est frustrant. Très honnêtement, c'est frustrant. Et c'est même pas la colère. Je suis frustré de ne pas pouvoir vraiment mettre toutes les forces dont j'ai disposé à la bataille. Bon, malgré tout, on est parti. Bah, voilà, on a fait ce qu'on a pu. Même sur les 14 joueurs dont vous parlez, il y en avait 5 qui étaient blessés, qui ont joué sur une jambe. Qui ont joué avec des élongations, des entorses de cheville. On a fait ce qu'on a pu.
Ah, il en a gros sur la patate, hein. Lamine Diaye, semaine à oublier pour Oroya, dont les secousses vont se faire ressentir encore quelques jours.
Les joueurs testés positifs au Covid-19 ont dû rester là-bas, au Maroc, alors que la nouvelle saison du championnat guinéen a débuté il y a 10 jours. Les hommes de Lamine Diaye ont déjà 2 matchs en retard et 1 premier tour préliminaire de Ligue des Champions à préparer. Premier tour prévu pour le week-end du 20 novembre.
Eh bien, merci beaucoup, Tom Rossi. Vous l'avez dit, la prochaine Coupe de la Confédération va débuter dans quelques semaines. On le rappelle donc, la Ligue des Champions n'est pas terminée. Vous en avez parlé, Zamalek Raja Casablanca aura lieu dimanche prochain si tout va bien. Le vainqueur affrontera en finale de cette Ligue des Champions les Égyptiens d'Al Ahly. Ce sera le 6 novembre. Hier, vous entendiez Alain Traoré dans Mondial Sport et on a eu du nez puisqu'Alain Traoré a remporté cette finale de la Coupe de la Confédération, le Burkinabé avec la Renaissance de Berkane. Ce soir, c'est un autre Bobolé et un autre Traoré qui est à l'honneur, Lassina Traoré. Certains fidèles de la page Facebook de Mondial Sport le réclamaient. Eh bien, Martin Guez s'est entretenu avec lui. Bonsoir Martin.
Bonsoir Cédric, on réalise les vœux de tout le monde en ce moment.
Décidément, voilà, vous êtes le génie. Difficile de passer à côté du jeune attaquant de 19 ans qui a crevé l'écran hier avec l'Ajax Amsterdam.
Ah oui, l'Ajax et le Burkinabé qui se sont défoulés sur les malheureux joueurs de Venlo. Tenez-vous bien, victoire 13-0 des Ajaxides, un record dans le championnat néerlandais. Avec 5 buts du seul Lassina Traoré, personne n'avait fait aussi bien depuis un certain Marco van Basten en 1985. Vous n'étiez pas né, Cédric?
Eh bien, pas encore.
Lassina Traoré non plus. C'était 16 ans avant sa naissance. Pas seulement buteur, mais aussi 3 fois passeur. Après des débuts au Raimo FC et un passage dans un club partenaire de l'Ajax en Afrique du Sud, le voilà qui se révèle aux Pays-Bas. Et il n'était toujours pas redescendu de son petit nuage ce dimanche.
Ouais, depuis le matin, c'est un peu tout nouveau pour moi. J'ai reçu beaucoup de messages de la part de mes amis, de tout le monde du foot, donc ça fait un peu plaisir. J'ai l'habitude de marquer des buts, mais hier c'était quelque chose d'exceptionnel. C'était rentrer dans l'histoire de l'Ajax, c'était quelque chose de tout nouveau pour moi.
Ouais. On a remarqué sur le terrain, vous avez un style bien à vous, hein. Vous êtes vraiment très très puissant, vous êtes très fort de la tête, hein. On a vu 3 buts rien que de la tête, vous en avez aussi mis 2 du droit, il vous manque plus que le pied gauche, hein. C'est peut-être pas votre pied le plus fort.
Je m'exerce là-dessus, mais ouais, je suis pas mal quand même. Le pied gauche, je suis pas mal quand même. J'ai une belle détente et j'essaie de travailler à chaque fois mais je réussis de la tête parce qu'un attaquant, tu sais pas là où le ballon va venir.
Alors Lassina, vous êtes né au Burkina, vous êtes formé au FC Raimo, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est là que vous avez appris à jouer au foot, c'est au Burkina que vous avez tout appris finalement?
Ouais, je fais ça à Raimo, j'ai tout appris, j'ai appris à jouer, j'ai appris à gagner. J'ai appris à être sérieux, et à Raimo, j'ai tout appris en fait. Tout d'abord, j'accompagnais ma maman au terrain de foot parce que c'était une joueuse professionnelle aussi. Et puis, c'était capitaine des étalons féminines. Mon papa aussi était un ancien joueur, mais je ne l'ai pas vu jouer. Donc, j'avais l'amour du ballon. Je suis né avec le ballon. Donc, après, j'ai commencé à jouer dans le quartier. Et là, pof, c'est parti. J'ai joué à l'école, les tournois du quartier. Et puis, j'ai rencontré mon tonton Raïm, qui m'a pris dans un centre de formation. Et puis, c'est devenu une profession pour moi aujourd'hui. Dès tout petit, j'étais quelqu'un de doué au foot. J'étais le capitaine de toute ma génération. J'étais le meilleur buteur aussi. Donc, à chaque fois, quand on jouait, j'essayais de marquer le maximum de buts. Je me rappelle, un jour, j'ai marqué 11 buts sur 22. J'étais totalement fou au Burkina. Tout le monde parlait de ça et tout. Ça fait 3 ans maintenant, je crois.
Donc en fait, c'est facile pour vous de marquer 5 buts si vous en avez déjà mis 11.
Comme j'étais en petite catégorie, là, c'est un tout autre niveau et ça fait franchement un plaisir.
Alors après Raimo et avant l'Ajax, vous avez une petite période où vous êtes passé par un centre de formation partenaire de l'Ajax en Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? On vous a repéré au Burkina. Comment est-ce que vous êtes passé donc en Afrique du Sud puis arrivé à Amsterdam ensuite?
Non, d'abord j'ai fait direct. Et Burkina, Amsterdam. Et puis après, là, on m'a envoyé en Afrique du Sud pour aller m'adapter avec le climat, la langue anglaise et tout. Parce que je ne parlais pas l'anglais, c'était un peu plus compliqué de s'adapter directement à Amsterdam. Vu que l'écart est plus grand du Burkina, Amsterdam, l'écart est plus grand. Mais ils savaient que j'avais le talent, ils m'avaient vu jouer et tout. Donc ils m'ont envoyé pour une année et demie.
Et comment ça s'est passé alors cette année et demie en Afrique du Sud? Vous avez appris la langue et vous avez continué à... Vous avez appris l'amour du maillot aussi, c'est le même maillot il me semble.
Ouais, c'est le même maillot, donc j'ai appris la culture, la rigueur hollandaise. Au début c'était compliqué pour moi de venir à l'heure à chaque fois, d'être totalement concentré sur le football, c'était un peu compliqué.
Qu'est-ce qui était compliqué? Vous étiez peut-être un jeune joueur, peut-être à 16 ans, c'était assez difficile.
J'étais jeune, vivre sans ma famille, mes amis, c'était compliqué, le climat. La langue, tout était compliqué. Chaque fois sur mon téléphone, j'essayais de parler avec mes amis du Burkina pour maintenir le cap, mais c'était chaud.
Et maintenant, ça va mieux? Vous avez trouvé votre équilibre à Amsterdam, on imagine?
Ouais, dès le premier jour, je suis venu à Amsterdam. C'est comme si j'étais au pays. Hein.
Enfin, avec des champions, justement, vous avez joué quelques minutes hein, contre Liverpool la semaine dernière. Désormais, c'est l'Atalanta Bergame qui se présente. Forcément, vous avez un petit peu attiré la lumière hein, ce week-end, donc vous allez être un peu plus observé. Ça vous inquiète pas trop, cette pression? Vous êtes encore très jeune, hein, vous avez seulement 19 ans, c'est peut-être pas facile à gérer?
C'est un peu plus compliqué quand les gens commencent à te connaître, mais on joue le foot pour ça, on joue tout petit, on joue pour ces gens de rencontre, ces gens de pression. Je préfère.
C'est énorme de commencer à domicile contre Liverpool, même jouer quelques minutes, ça doit être quelque chose d'assez.
Ouais, franchement, c'était énorme, ça faisait plaisir, malgré le résultat. Je croyais toujours pas parce que quand on était au centre de formation, je me rappelle, on regardait les matchs de Liverpool, Sadio Mané à la télé. Et j'étais tout jeune, j'avais les 15-16 ans, donc ça fait réellement plaisir.
Est-ce que la présence de quelqu'un comme André Onana est importante pour vous, lui qui vient comme vous hein, d'Afrique francophone? Est-ce qu'il a peut-être joué un rôle dans votre intégration?
André Onana, c'est quelqu'un dès le premier jour, je suis venu le trouver. André Onana, c'est quelqu'un de fantastique, c'est quelqu'un de vraiment humain et je ne peux que lui dire merci pour moi. Et puis j'ai trouvé Hassan Bandé aussi. Malheureusement, il avait une grande blessure, mais lui aussi, il était là, donc ils étaient deux à me recevoir et tout. Donc, ils m'ont vraiment facilité la tâche.
Qu'est-ce qu'on espère pour vous, devenir titulaire de l'équipe, réussir en Ligue des Champions, en équipe nationale, absolument partout?
Vous avez tout cité, c'est tout ce qu'on espère, ouais.
Voilà le sourire de Lassine Traoré qu'on devrait retrouver dès ce mardi en Ligue des Champions, Cédric. L'Ajax Amsterdam qui se déplace sur la pelouse de l'Atalanta Bergame.
Oui, on en parlera évidemment sur RFI dans une nouvelle soirée spéciale, deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Ce sera donc au programme. Il y aura également Marseille-Manchester City et je crois que vous serez à l'antenne mardi soir également, Martin Guez.
Tout à fait, on a deux de vous retrouver pour cette soirée.
Mondial Sport sur RFI.
22h45 à Paris, tout pile. Voilà, on va remercier Martin Guez et c'est l'heure de partir en Angleterre. On disputait la 6e journée de Premier League. Évidemment, il s'est passé beaucoup de choses, comme tous les week-ends d'ailleurs. Outre-Manche, championnat très très serré dont on va parler avec notre correspondant Philippe Auclair. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à vous.
Alors Philippe, on va commencer par un match qui a eu lieu hier. Manchester United-Chelsea, deux équipes qui sont en Ligue des Champions. Match décevant 0-0, mais qui a eu le mérite de confirmer une chose. Édouard Mendy est désormais bien installé dans les buts des Blues.
Tout à fait. Et il a, je pense que c'était son examen de passage. Il en avait eu un premier qui s'était plutôt bien passé, même très très bien passé, contre Crystal Palace au début du mois d'octobre. Il avait gardé un clean sheet. Ensuite de quoi, bon, il y avait une légère blessure. Il est revenu dans la cage en qualité de titulaire, et cette qualité de titulaire, il va la conserver. Mis à part une petite alerte sur un ballon qu'il a essayé sur une passe, qu'il entendait adresser à l'un de ses défenseurs et qui a failli atterrir dans son propre but, il a été, ses interventions ont été très, très clean, très claires. Les prises de décision étaient les bonnes, les arrêts étaient parfois spectaculaires, et c'est grâce à lui, je dirais, que Chelsea est reparti d'Old Trafford avec un point dans la musette. Et donc, Edouard Mendy, je crois qu'on peut le dire maintenant, il est le numéro 1 de Chelsea. C'est pour ça que Frank Lampard l'avait fait venir. Il fallait qu'il prouve qu'il en était digne. Et je crois que là, très franchement, il l'a fait.
Et vous parliez d'un arrêt spectaculaire, notamment sur une frappe de Marcus Rashford. Rashford dont on va parler, puisqu'on va s'éloigner un tout petit peu du terrain pour évoquer la dimension que ce garçon est en train de prendre en Angleterre. Il n'a que 22 ans, l'attaquant de Manchester United. Et il est en train de s'engager auprès des populations les plus défavorisées.
Et en particulier autour des enfants qui dépendent de subventions pour avoir des repas gratuits pendant les vacances scolaires, qui est en fait la cause derrière laquelle il est en train de réunir tout le pays. Rashford, qui vient lui-même d'un milieu défavorisé, qui a été élevé par sa mère seule, qui a eu parfois faim quand il était gamin, et qui est en train de devenir tout simplement l'un des Anglais les plus aimés, je crois qu'on peut le dire, dans le pays, à cause de son engagement humanitaire, mais aussi de l'opposition face au gouvernement de Boris Johnson, qui avait décidé de mettre fin à ses subventions alimentaires. Il l'avait déjà décidé lors du premier confinement, lors au printemps. Rashford, à lui, pratiquement tout seul, avait mené une campagne qu'ils avaient fait rebrousser chemin. Ils ont de nouveau décidé d'interrompre ses subventions et Rashford est maintenant passé de nouveau à l'attaque et il a derrière lui, je dirais, que le pays quasiment tout entier. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, franchement. Je pense qu'on en reparlera, mais qu'un footballeur de 22 ans ait pris une telle dimension dans le paysage politique et moral de son pays et pas seulement sur le terrain, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
Oui, c'est pas courant d'ailleurs pour un footballeur anglais, notamment jeune, puisque d'habitude, il se signale plutôt par d'autres actions.
Par une frasque, oui. Par exemple, on se souvient de Phil Foden et Mason Greenwood avec la sélection anglaise qui avait, disons, oublié un petit peu le couvre-feu et fait venir deux jeunes filles islandaises dans leur hôtel lorsqu'ils étaient en déplacement avec la sélection. Là, on est dans un tout autre ordre d'idée. C'est un garçon tout simplement qui épate par sa maturité, par son engagement, mais aussi par le fait qu'il a su le faire avec une habileté remarquable, parce que c'est pas du tout en s'opposant gratuitement et en frappant du poing sur la table qu'il est parvenu à sensibiliser l'opinion sur cette question des enfants qui ont faim en Angleterre, et on parle de plusieurs millions d'enfants dans ce cas. C'est tout simplement par la clarté avec laquelle il a présenté cette cause, et avec laquelle l'énergie avec laquelle il la défend, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en mettant également la main à la poche, doit-on ajouter.
Et Marcus Rashford, on le rappelle, buteur décisif face au PSG cette semaine en Ligue des Champions. Philippe, on revient à cette 16e journée et à Liverpool, les Reds qui ont souffert face à Sheffield, mais qui l'ont emporté, notamment grâce à Sadio Mané.
Ben oui, grâce à un coup de tête de Sadio Mané, paré par le gardien de Sheffield United, Roberto Firmino était là pour appliquer la dernière touche. Sadio Mané qui a été plus en réussite, on va dire, en tout cas plus d'impact sur le jeu de Liverpool que Mohamed Salah qui a loupé deux belles occasions et également frapper le poteau.
Mais avec un but en jeu, but refusé aussi pour Mohamed Salah.
Mais ouais. Quel dommage, il était magnifique. Hein. Il était un enchaînement absolument somptueux avec un contrôle suivi d'une reprise de volée, mais malheureusement pour Mo Salah, ça n'a pas marqué ce coup-là. Mais l'équipe de Liverpool qui finalement s'est attirée sur l'épingle du jeu et du coup, vous regardez le classement et vous vous rendez compte qu'à égalité de points, cette équipe de Liverpool, malgré la perte de Virgil van Dijk, elle est en tête du championnat au nombre de points avec les voisins d'Everton, qui ont eu un week-end un petit peu plus compliqué en ce qui les concerne.
Ouais, victoire 2-1 donc de Liverpool, et vous le disiez, ce classement est très serré. Everton, week-end compliqué puisque le leader a concédé sa première défaite de la saison, 2-0 à Southampton, de manière assez surprenante.
Pas pas sur le certainement la physionomie du jeu, parce que Southampton a causé d'énormes problèmes tout au long de la rencontre, et particulièrement en première période à cette équipe d'Everton qui était jusque-là invaincue. Ils n'ont pas trouvé les ressources pour réagir. Peut-être que l'absence de Richarlison, qui est suspendu après un carton rouge dans le derby de la Mersey, y est pour quelque chose. Mais ça veut dire que Everton, 13 points, mène toujours le bal, avec Liverpool également 13 points. Mais que tenez-vous, nous avons 14 équipes sont actuellement à 5 points dans ce championnat d'Angleterre après 6 journées, ce qui est quand même assez extraordinaire, il faut l'avouer, dans le paysage du football européen, où on a tendance à voir des équipes qui survolent leur championnat. En Angleterre, certainement, ça n'est pas le cas. Et si je vous avais dit, après 6 journées, le classement, ça sera Everton devant Liverpool, Aston Villa, Leeds United et Southampton et Crystal Palace, je pense que vous auriez un petit peu douté de ma santé mentale, mais pourtant, c'est le classement, à l'issue ou presque de cette 6e journée de championnat d'Angleterre.
Eh bien, merci beaucoup Philippe, et à bientôt sur l'antenne de RFI. C'est toujours un plaisir. Pour être complet, sachez qu'Arsenal a été battu sur sa pelouse face à Leicester. Victoire donc de Leicester 1-0 grâce à Jamie Vardy. C'est la 3e défaite en 4 journées pour les Gunners. Les Gunners qui sont dans le ventre mou donc de ce classement du championnat d'Angleterre, très serré. Donc, on l'a compris, on va parler un petit peu de Ligue 1. On a un peu de temps pour vous donner les résultats de la journée. 8e journée, les buteurs sénégalais qui sont toujours autant en forme. Habib Diallo a inscrit son 2e but en 2 matchs depuis qu'il a rejoint Strasbourg à la fin du mercato. Succès 3-0 des Alsaciens à Brest. Le transfert est donc une réussite pour l'ancien Metz justement, qui a dominé Saint-Etienne 2-0. Même chose pour Bordeaux face à Nîmes. 1 partout entre Nice et Lille. Et puis Reims est allé dominer Montpellier 4-0 avec un triplé de Boulaïdia. Alors c'est la première victoire de Reims cette saison. Et le Sénégalais, lui, a rejoint en tête du classement des buteurs Kylian Mbappé et son compatriote Ibrahim Niane. Ils ont tous les trois 6 buts depuis le début de la saison. Niane, on le rappelle, gravement blessé sans doute jusqu'à la fin de la saison. Et puis il y a un dernier match qui se déroule en ce moment qui va se terminer dans quelques instants. Lyon affronte Monaco. Lyon qui a réussi une première période parfaite, qui menait 4-0 grâce notamment à un doublé du Camerounais Karl Toko Ekambi. Monaco a réduit le score grâce à Wissam Ben Yedder en début de seconde période. On vous donnera le résultat à la fin de l'émission. Du cyclisme à présent, avec la fin du Giro, le Tour d'Italie finalement remporté par Theo Gegenhardt, prononciation celte, ça m'a été soufflé par Tom Rossi, qui apparemment a de grosses connaissances en la matière. En tout cas, le Britannique de chez Ineos a profité du dernier contre-la-montre autour de Milan pour prendre le meilleur sur son rival, l'Australien Jay Hindley. Les deux hommes étaient séparés de 86 centièmes, autant dire un souffle avant le départ de cette 21e étape. Mais Gegenhardt a donc été le plus rapide, 39 secondes d'avance sur Hindley. L'étape a été remportée par le champion du monde de la discipline, l'Italien Filippo Ganna. Arnaud Démare ne s'est pas mêlé à la lutte. Le Français a surtout validé son maillot cyclamen du classement par points, ce qui vient conclure un Giro idyllique pour le coureur de la Groupama FDJ, vainqueur également de 4 étapes. Finalement, malgré un début d'année délicat avec notamment une fracture du scaphoïde, il vient de boucler la saison la plus belle de sa carrière à 29 ans.
Ça reste un moment vraiment magique. J'ai vécu un Giro exceptionnel et surtout une saison exceptionnelle avec le confinement, avec mon scaphoïde et puis toutes ces victoires qui se sont enchaînées. Donc vraiment extra. On va revenir avec 4 victoires. Le cyclamen devant Peter Sagan, c'est vraiment le plus coriace que je pouvais avoir pour ce maillot par points. Et donc c'est chose faite.
Voilà, Arnaud Démare qui repart de Milan et du Tour d'Italie avec le maillot cyclamen comme Nasser Bouhanni en 2014 et comme Laurent Jalabert en 1999. Et puis, pour être complet sur le cyclisme, sachez que le peloton du Tour d'Espagne a parcouru 6 étapes pour l'instant. 6e étape remportée aujourd'hui dans les Pyrénées par le Basque Jon Izagirre. Le nouveau maillot rouge, c'est le Colombien Richard Carapaz qui a notamment profité d'une défaillance du Slovène Primož Roglič pour prendre la tête. En rugby, on va revenir sur la victoire du 15 de France hier face au Pays de Galles, 38-21. Joli succès dans un stade de France, malheureusement à huis clos à cause de la crise sanitaire. Malgré une entame délicate, les Bleus n'ont visiblement pas perdu leur enthousiasme lors de cette coupure de plus de 7 mois sans jouer. En tout cas, cette prestation est convaincante à une semaine de retrouver l'Irlande pour leur dernier match du tournoi des Six Nations. Reportage d'Éric Chorin qui a pu se rendre compte que les joueurs du sélectionneur Fabien Galthié ont beaucoup pensé à leurs supporters.
J'espère qu'on a apporté un peu de bonheur, un peu de sourire à ces millions de supporters qui peuvent pas jouer au rugby, qui peuvent pas venir au stade.
Que Fabien Galthié se rassure si les Bleus ont fait trembler leurs supporters, même de loin, avec un peu de retard à l'allumage et un essai de l'arrière gallois Lee Halfpenny dès la première minute, ils ont su réagir, le capitaine Charles Olivon.
C'est vrai qu'on n'est pas super bien rentré dans le match, mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est après le premier essai, on s'est retrouvé sous les poteaux, il n'y a pas un mec qui a paniqué, on est resté dans le cadre, et voilà, encore une fois, c'est le collectif qui en est sorti grandi, et je pense que voilà, on a repris les choses par le bon bout, on s'est pas affolé, on est resté calme, serein, et voilà, au final, on arrive à remonter, à passer notre jeu, et sincèrement, je suis très fier de toute cette équipe, parce qu'on a fait preuve de caractère.
Du caractère et du plaisir pour leur retour sur le terrain de jeu, en bleu, après 7 bons mois d'absence, avec 5 beaux essais, plaisir partagé par l'ailier Vincent Rathès, même s'il n'a pas marqué.
On marque 5 essais, donc on se fait plaisir. Le but, c'est depuis bientôt un an et demi, c'est de produire du jeu sans trop tomber dans l'excès, mais d'essayer de jouer dans les bonnes zones du terrain. Et je pense qu'on a les joueurs pour le faire. Donc moi, ça nous réussit bien ce soir. Je crois que lors du tournoi aussi, ça nous avait pas mal réussi. Après, voilà, c'est vrai qu'on se base aussi sur une grosse défense qui nous a pas mal aidé ce soir. Donc c'était bien.
C'était bien, c'était chouette avec Antoine Dupont à la baguette, impliqué dans 4 essais, dont 2 qu'il a lui-même aplati. Mais Fabien Galthié, quand on souligne que Dupont a été énorme, n'oublie pas, en bon entraîneur, de saluer aussi son compère de la charnière, Romain Tamac, auteur d'un 6-6 au pied.
Tu as employé le mot énorme. J'ai envie de dire qu'il a été à la hauteur de l'équipe. Il a su exploiter nos temps forts. Il a su être très bon. Il a su s'adapter assez vite à l'activité à la fois offensive et défensive des Gallois. Et c'est vrai que quand on a des joueurs de cette qualité au centre du terrain, je parle de la charnière parce que la charnière a été bonne en fait dans son ensemble, dans la conduite du jeu, ça porte l'équipe.
Une équipe portée également par un Virimi Vakataoua tranchant comme le silex et magique à la passe, et un paquet d'avant qui a pesé de tout son poids en mêlée dans le jeu, en témoigne le premier essai conclu par le pilier Cyril Baye. De quoi rassurer des Français qui n'ont eu que 5 jours pour préparer ce match, mais il y a encore des choses à corriger, notamment cette indiscipline qui leur a valu d'être pénalisée 16 fois, soit 4 fois plus que leur adversaire, dans la contestation du ballon notamment, surtout s'ils veulent battre l'Irlande dans une semaine au Stade de France pour refermer en beauté un tournoi qu'ils avaient si bien commencé l'hiver dernier. Éric Chorin, le Stade de France, RFI.
Éric Chorin qui sera encore sur place la semaine prochaine pour ce France-Irlande. Je vous rappelle d'ailleurs le calendrier. Le Pays de Galles défiera l'Écosse et l'Angleterre se rendra en Italie donc le week-end prochain, le 15 de la Rose. Favori pour remporter ce tournoi des Six Nations, mais il lui faudra s'imposer avec le bonus offensif. Mondial Sport, c'est aussi parfois les sports mécaniques et la Formule 1. Comment effectivement ne pas parler de la performance de Lewis Hamilton? Le Britannique, sextuple champion du monde, est encore un peu plus centré dans l'histoire de la Formule 1 en remportant le Grand Prix du Portugal aujourd'hui. La 92e victoire de sa carrière, soit une de plus que la légende Michael Schumacher. Le pilote allemand qui a régné sans partage sur la F1 quand il était chez Ferrari, on pensait son record inatteignable. Eh bien, Hamilton a réussi l'exploit de le dépasser et il a encore du mal à réaliser.
Je n'aurais jamais imaginé en être là aujourd'hui quand j'ai choisi de venir chez Mercedes avec ces gens géniaux. Mais j'y suis parvenu. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'essaie d'en profiter chaque jour de mon existence. Nous tirons tous dans le même sens et c'est le secret de notre réussite. Mon père est là aujourd'hui, ma belle-mère aussi et mon chien Roscoe. C'est un jour béni.
Alors on salue Roscoe, le chien de Lewis Hamilton, qui aura sans doute d'autres occasions de se réjouir, puisque le pilote britannique est largement leader du classement du championnat du monde devant son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas. Un 7e titre de champion du monde tend les bras à Hamilton. Rendez-vous pour le paddock dans une semaine à Imola, en Italie. Voilà, Mondial Sport, c'est terminé. Je vous disais que Lyon allait battre Monaco. Eh bien, c'est fait, 4-1. Lyon, qui est 6e de la Ligue 1 avec 13 points, Monaco 12e, on en parlera sans doute dans Radio Foot International demain avec Tom Rossi. Ce sera à partir de 17h10, temps universel. Bonne soirée.